Bonjour monsieur, l'émission Bille en tête, qu'est-ce qu'un vin naturel ?
Ça dépend ce qu'on entend par naturel, avec des sulfites, c'est ça ? Sulfites, hein ? Pas trop, hein ?
Bille en tête, Philippe Ligron et Duja.
Le soleil de Féchy nous inonde de bonheur, Philippe, et nous sommes rôtis tels de petits grains de raisin dans les vignes avoisinantes.
Oui, surtout dans la cave de Raymond Paco. Raymond Paco qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Alors Raymond Paco, est-ce qu'on doit encore le présenter parce qu'il est assez connu dans le milieu professionnel, dans tout ce qui fait autour du vin. Nous sommes à Féchy, rappelons-le. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation que nous affectionnons particulièrement dans Bille en tête. C'est la situation d'avoir deux générations ensemble. Donc Raymond qui nous fait le plaisir aujourd'hui d'être avec nous et sa fille Laura. Alors salut à vous deux.
Salut, bonjour.
Oui, bonjour. Content de vous accueillir.
Ben, merci beaucoup.
En face d'un
on nous a tellement parlé de vous en bien.
Mais comme vous. Ouais.
L'émission sombre dans l'autocongratulation.
C'est ça, il en faut un petit peu de temps en temps. Bref, nous sommes heureux d'être avec vous. Raymond, on ne te présente plus, je le disais juste avant, un vin, on va en parler pendant tout au long de cette émission, ce vin qui est bio, tu travailles ton vin selon des principes très spécifiques, et ta fille Laura, que j'ai eu la chance d'avoir comme élève lorsque j'étais enseignant à l'école hôtelière de Lausanne, donc c'est un petit retour en arrière pour moi, mais il n'y avait pas qu'elle, il y avait aussi une autre fille. Tu as combien d'enfants ?
J'ai trois filles, il y a Chloé, l'aînée, qui est aussi dans le vin, qui a un bar à vin mobile, et puis Marion, la sœur de Laura, qui travaille aussi au domaine, mais qui s'occupe plutôt de tout ce qui est communication, Facebook et tout ce fourbier. Et puis,
on sent que c'est la passion digitale.
Voilà, la passion, absolument. Je suis bien content, tu vois.
Et puis Laura, qui est plus dans la technique, c'est ça ?
Alors, et Laura, que tu as formée, dont je te remercie vraiment, tu me l'as rendue, mais nickel.
Parce qu'au niveau du vin, je ne l'ai pas beaucoup formée. Hein. Mais au niveau de la cuisine, ça va, elle fait bien à manger.
Ouais, c'est vrai, au plus, elle fait bien à manger. Ouais. Mais tu sais que c'est vraiment à l'école hôtelière qu'elle a décidé de revenir au domaine.
Mais oui, parce que tout ça, c'est lié, finalement. Tout ce qui touche à la gastronomie, on parle de nourriture, mais le vin aussi, on a pu voir au début de la semaine aussi avec les spiritueux, hein, ne serait-ce que dans l'émission d'hier avec ton frangin. Donc effectivement, il y a tout cet environnement qui tourne autour de l'émotion, de la sensibilité des gens, de ce fameux sixième sens dont on parle souvent dans Bille en tête.
Et on parle de cuisine, on parle de vin, je crois qu'il y a du projet pour le mois de mai.
Oui, absolument. On prévoit de faire un avènement. On a la chance d'avoir un jeune maraîcher cuisinier qui habite à 2 kilomètres de chez nous, dans les Hauts d'Aubonne.
Comment s'appelle-t-il ?
Raphaël Jetta, donc les jardins de Chivrajon. Et on va faire un événement avec eux le 14 mai. Et ce sera un accord vin et légumes. Et pas mais et vin. Pour une fois, lui, il adore tout ce qui se boit et ce qui se mange. Donc il va...
Ouais, puis il travaille aussi en biodynamie. Ok. Donc, oui, ce qui crée le lien un peu avec lui aussi.
Par exemple, un cynar avec de l'artichaut.
Pourquoi pas ? En attendant, on parle de biodynamie, des techniques spéciales, c'est ton cœur de métier. Raconte-nous comment ça se passe le vin chez toi. Quelle est ta différence par rapport aux autres vignerons qui peuvent être pas loin d'ici ?
Ouais, alors on cultive pas d'artichaut, malheureusement. Mais par contre, c'est vrai qu'on est en biodynamie, on a commencé il y a une vingtaine d'années. C'était pas tellement la mode à l'époque, on le cachait plutôt. Mais l'idée, c'était d'arriver...
Pourquoi ? Pardon, vraiment, mais pourquoi ?
Mais parce que c'était pas du tout la mode, c'était plutôt même mal vu, parce que c'est un peu ésotérique, comme technique, tu sais, les cornes de vache, le fumier, tout ça, tout le monde se foutait de nous un peu.
C'est-à-dire ? Les cornes de vache dans le fumier ?
Ouais, ben c'est toujours un peu compliqué à comprendre, mais la base, c'est simple, c'est tu fais bio, évidemment. Donc, bio, ça veut dire que tu mets plus de pesticides de synthèse, plus d'acaricides, plus d'herbicides. Ça, c'est la base du bio, normal. Et puis, dans la biodynamie, en fait, c'est une théorie qui est issue de chez Steiner, qui est un peu sulfureux par d'autre part. Mais enfin, sur ce plan-là, il a quand même amené quelque chose. Ça veut dire que tu enrichis ton sol avec des bactéries, avec pour aller plus vite dans l'assainissement du sol et dans l'enrichissement du sol, dans la vie du sol.
Un exemple concret ?
On rajoute, on garde des fumiers de vache, c'est toujours basé sur le ruminant, hein, surtout la vache chez nous. Et puis, tu vas faire une bouse que tu vas garder pendant quelques mois sous terre, etc., pour l'enrichir en bactéries. Et ensuite, tu vas mettre ça sur ton sol. Et puis, ça va être un enrichissement, une multiplication des bactéries, comme pour les levures, en fait, ce qu'on fait, tu vois, c'est une multiplication rapide. Et puis, sur plusieurs années, eh ben, ton sol, il gagne en richesse de colomboles, de vers de terre, de toute cette faune épigée, endogée que tu retrouves dans le sol. La faune dans le sous-sol, elle est extrêmement vive et riche comme ça. Mais seulement, avec les herbicides, on a tout fait un peu crever.
C'est ça.
Hein? Donc, il a fallu compenser par des engrais chimiques qui en plus compliquent un peu le travail du sol parce que tu appauvris ton sol, t'as des vins qui ont moins d'acidité, qui ont moins de fraîcheur, comme ça, voilà. Donc tes vins, ils deviennent un peu plus mous.
La lune aussi, entre lignes de compte.
Oui, alors ça, c'est la conséquence, si tu veux bien. Ça veut dire, une fois que t'as enrichi tes sols, elle est plus résistante, la vigne. Mais c'est sûr que le peu d'apport qu'on va faire avec du cuivre, du soufre et puis beaucoup de tisane, c'est quand même moins efficace. Et donc, faut les positionner au bon moment. Donc, tu vas travailler en collaboration avec la lune, avec les astres, etc. Donc, c'est là aussi que c'était très discutable. Et puis, c'est vrai qu'on, des fois, on peut pas le faire. On n'arrive pas parce que le jour où il nous annonce que c'est le bon jour, ben, il va pleuvoir.
L'idée, donc, c'est d'optimiser, en fait, les équilibres naturels.
Exactement. C'est, ben, alors, voilà quelqu'un qui parle bien.
Donc, ça veut dire que la lune ne ferait pas que faire pousser les cheveux plus vite. Elle a aussi une activité sur la nature.
Absolument. Beaucoup plus encore que chez nous. Parce que si tu veux, une plante, n'importe laquelle d'ailleurs, elle peut pas se déplacer. Elle est là. Donc, elle reçoit beaucoup plus les influences des astres que nous.
J'ai vraiment l'impression qu'il y a une chasse aux sorcières un temps par rapport à cette diabolisation de cette agriculture dont tu parles juste avant et que je maîtrise très très mal. Mais on nous a dit toujours, oui, les marées sont influencées par la Lune. Donc ça, c'est reconnu mondialement. Mais ça voudrait dire que la Lune n'avait qu'un impact sur les marées et pas sur autre chose. Qu'est-ce qui a fait que maintenant, on commence à se poser toutes ces questions et on commence à reconnaître qu'en fait, la Lune a un impact sur pas mal de choses.
Tous les astres, en fait.
Mais tous les astres, en fait, il y a une dame qui s'appelle Maria Thun, une Allemande, qui a fait des études, justement, à la base sur des radis. Mais après, elle l'a fait sur d'autres légumes. Et elle les plantait à peu près toutes les 2 heures. Et puis, elle voyait des radis, justement, qui faisaient beaucoup de feuilles, d'autres beaucoup plus de racines. En fait, ils étaient influencés. Et là, elle s'est mise à étudier toute la position des astres. Et c'est un peu de là qu'est venue toute cette théorie. Elle a développé un peu ce qu'a fait Steiner. Parce que Steiner, c'était un penseur, mais lui, il a jamais planté un radis. Hein. Mais par contre, cette dame, elle a fait beaucoup avancer cette idée de des jours fleurs, des jours fruits, des jours racines, que nous, on essaye de tenir compte, justement. On sait maintenant qu'il y a des jours où, selon la position des astres, eh ben, c'est plus facile de planter des légumes ou bien la vigne ces jours-là. Alors, par exemple, pour aussi les jours fleurs, on sait aussi que c'est peut-être mieux de récolter les raisins ces jours-là. C'est pas toujours possible, mais on fait en conséquence. Pour les mises en bouteille, on en tient compte aussi. Il y a des jours où la lune descend, eh ben, c'est peut-être des jours où ça retient mieux les parfums du vin. T'en perds moins quand tu mets en bouteille, comme ça. Voilà. Ça, c'est assez logique, ça s'explique de façon autrement que de façon ésotérique.
J'ai lu que certains grands chefs, dont Girardet pour ne pas le citer, disaient qu'il y avait du mystère dans vos vins, que vous n'avez toujours pas réussi à percer le mystère des vins Paco. À votre avis, sans biodynamie, ça n'aurait pas été possible ?
J'espère, mais ça, j'en suis pas sûr, tu sais, parce que, en fait, ce qu'on a fait, la première année, on a fait 2 hectares, parce que tout le monde nous dit, et ça, c'est encore une des raisons, un des freins, c'est que les gens ont peur. Ils ont peur parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre toute leur récolte. Alors nous aussi, on avait peur. On a pris un consultant, un gars assez connu. Et puis après, on a fait 4 hectares la deuxième année, puis après 6 hectares. Puis après, c'était compliqué d'avoir 2 systèmes, donc on a tout passé. Donc maintenant, j'ai plus de références. Mais je pense qu'effectivement, après plusieurs, mais peut-être même 10 ans, il faut un peu supprimer ces influences dues aux engrais, tout ce qu'on avait mis avant. Et ben maintenant, on a, j'espère, des vins qui sont plus fins, plus élégants, où le goût est peut-être un peu plus prononcé, mais après, on fait aussi des erreurs.
Ça veut dire qu'on a dénaturé le terroir local en utilisant des éléments de synthèse.
Ouais, c'est un peu le cas, mais c'est un peu le cas actuellement pour tout ce qu'on mange. Hein. C'est un peu ce qu'on pense, nous. Et c'est vrai que c'est pas facile.
Après, d'un point de vue très terre-à-terre, où t'as vu la différence très vite, c'est au niveau de la fermentation. Parce qu'au niveau d'une baie de raisin, c'est compliqué de voir la différence, mais au niveau, après, quand ça fermente, ça, on voit tout de suite, parce que les levures qui travaillent, ben avant, il y avait beaucoup plus de réduction, ou alors on finissait pas les sucres.
Ah oui,
c'est juste, venu, ouais. C'est peut-être venu plus rapidement.
Il y a plus de sucre maintenant ?
Non, ouais, il y a plus de sucre, mais ça c'est plus dû à la météo, au réchauffement climatique qui nous est pour le moment plutôt favorable. Hein, ça faut.
Pour le moment.
Mais, pour le moment. Mais c'est sûr que, ben, on vient de reprendre une vigne, hein, c'est vrai, une vigne, une petite vigne d'un voisin qui en a marre, qui est fatigué, puis qui voulait, voilà. Et on a cette vigne depuis 3 ans. Et ben, on est embêté. La vigne, elle est stressée parce qu'évidemment qu'on a arrêté de lui mettre des engrais. Et puis les vins, ils sont un peu durs et puis ils finissent mal les sucres. C'est vrai.
Stressé, on peut sentir qu'une vigne est stressée.
Alors ça, nettement, ouais. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Les raisins sont, les vins sont un petit peu plus serrés, un peu secs comme ça.
Tu vois, des vins stressants.
Ouais, des vins un peu protestants.
Ouais. Justement, par rapport à toute cette situation de vin en biodynamie, donc tu dis qu'il y a une valeur ajoutée, mais au niveau des rendements, ça se passe mieux? Parce que le fait d'utiliser des engrais, c'était pour sécuriser le résultat, enfin en tout cas pour garantir le résultat. Donc travailler sans engrais, ça veut dire qu'on se tire un peu dans le pied, en tout cas on joue à la roulette russe ou pas? Qu'en est-il de tout ça?
Bah aujourd'hui, je pense qu'en Suisse, on n'est plus vraiment dans une idée de vraiment produire le plus possible. Donc, c'est plus du tout actuel, cette thématique. Au contraire, le moins de rendement naturel il y aura. Donc, s'il ne faut pas passer encore couper des raisins, le plus il y aura de concentration naturelle. Donc, on va concentrer autant le goût, l'acidité, les sucres. Donc, ce sera que positif pour le produit final. Et je pense qu'aujourd'hui, la Suisse, elle se positionne un peu dans cette direction. Il n'y a plus, pour avoir la AOC, les rendements, ils sont drastiquement baissés par rapport à ce que mes grands-parents faisait.
On parle souvent de cette période, des périodes charnières, fin des années 70, début des années 80, il y a eu vraiment des changements. On voit encore à la fin des années 70 en Lavaux, ces piscines à blanc, des trucs complètement inimaginables actuellement. Toi, tu l'as ressenti comment cette évolution? Il y a eu des signes avant-coureurs, est-ce qu'on se disait, tiens, on va passer à autre chose, on va faire du meilleur vin, ou alors c'est venu naturellement?
Non, en fait, il y a aussi, t'es gentil de dire Lavaux, parce qu'ils vont être contents, hein. Non, parce qu'à la côte, c'était la même chose, ah ouais, tu sais. Mais en fait, si tu veux bien, depuis la guerre, on était dans cette époque où, bon, moi je l'ai pas vécu, mais enfin, fallait produire beaucoup.
Mais pour qui?
Mais parce que les gens, ils avaient envie de boire des vins, des chasselas, il était très à la mode, etc. Et puis, les Suisses avaient peu de concurrence, et puis ils ont produit beaucoup. Mais de fait de produire beaucoup, on pouvait comprendre parce que tu compensais les coûts de production quand même élevés, hein, les salaires, les prix des terres, etc., ce qui est toujours le cas. Et puis, donc, tu devais produire. Et ils s'occupaient que de ça, et ils vendaient bien. Donc, c'est une période où la question se posait pas. Il y avait pas cette culture du petit rendement, etc. C'était normal de produire plus. Et puis, à présent, il y a eu, depuis les années 80, un peu cette prise de conscience. Et puis, nous aussi, on vit mieux. Et puis, on a plus ce sentiment de trouver le goût juste. Donc, on essaye aussi de baisser les rendements pour ça. Parce qu'en fait, l'année, elle peut être plus ou moins bonne. Mais si tu produis moins, eh bien, tu produis meilleur, forcément. Si tu veux faire des grands vins, il faut diminuer. Voilà, ça fait 25 ans qu'on met plus d'engrais, ça fait 20 ans qu'on est en biodynamie, et on a une baisse de production, mais pas énorme, pas assez des fois. On est obligé encore d'aller couper, ce qui est une défaite pour nous. C'est pas juste, tu vois. Il faudrait arriver à diminuer de façon naturelle, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des années, on doit quand même aller couper des grappes.
Et c'est reparti pour le tour et le manège fonctionne toujours tant qu'il y a de l'envie, il y a des histoires qui tuent. On se refait pas, mon truc à moi, c'est avec toi, c'est l'aventure, je carbure à ça, c'est ça ma vraie nature. Bien sûr j'y crois plus pour toujours, que mon cœur est un peu plus lourd, blessure d'amour laisse des traces d'usure. Mais je voudrais pas qu'il en soit autrement, la vie c'est marrant, collé serré contre ta peau tout le temps. Des bas, des hauts, des patatras, des froids, des chauds, des aléas, des sans et trop, des restes là, là là la vie quoi. Maintenant tu me connais mieux, tu sais que du crémier je veux, le beurre, l'argent du beurre, le cul, le cœur. Tu me l'assures, ce n'est pas tant dans la mesure où tu me prends tout autant qu'un tricheur. Des pas, des hauts, des patatras, des froids, des chauds, des aléas, des sans et trop, des restes là, là là la vie.
domaine de la Colombe avec Raymond Paco et sa fille Laura. Bille en tête.
Par rapport à ce bilan qu'on pourrait faire, après ton expérience dans la biodynamie, c'est quoi? C'est un bilan positif, négatif ou c'est encore mitigé dans tout ça?
Oh, positif. Enfin, c'est pas moi qui ai l'expérience, mais en tout cas, je suis ravie qu'on ait tout le domaine en biodynamie. Moi, ça rend vraiment le métier intéressant.
Enfin, on dort sur ses deux oreilles aussi.
Ah oui, tu dors sur... Ah oui, tu t'habitues à d'autres. Et moi, je trouve au contraire que tu redonnes de la valeur au métier.
À l'humain derrière, parce que ça, il faut réfléchir. Enfin, il n'y a vraiment pas que des conseillers qui peuvent nous dire quelle recette appliquer chaque année. Il faut se poser la question. Mais après, s'il y a une grêle ou un orage, qu'on soit en biodynamie ou pas, on est tous à la même sauce. Donc, je pense pas qu'on dort moins bien que les voisins.
Tu peux comparer au cuisinier celui qui peut plus mettre de blanc d'œuf, il doit acheter de la poudre. Le vigneron qui veut continuer en normal, c'est plus un vigneron, c'est un chauffeur de tracteur. Il y a son vendeur d'engrais, son vendeur de produits, puis...
faire plaisir à ceux qui nous écoutent.
Ouais, bah, tant pis, mais un peu, là, tu dois vraiment te poser des bonnes questions, le temps qu'il va faire, comment il faut organiser ton travail, et puis tu dois regarder plus la plante, etc. C'est vrai. Et ça, c'est... Bien sûr, au début, c'était difficile parce qu'on n'avait pas les bons réseaux pour trouver la tisane de saule, pour trouver de la prêle qui correspond à celle qu'on a besoin... Tous ces réseaux-là, maintenant, ils se développent et puis on commence à avoir un joli réseau de copains qui nous aident et puis avec lesquels on a des bons contacts. Non, ça redevient un métier où l'homme doit décider. C'est une vraie profession.
Et au niveau de la qualité du produit, parce qu'on sait qu'au début où ça s'est lancé, il y avait des retours qui disaient « Ouais, alors c'est un peu la loterie, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon ». Là, maintenant, on arrive vraiment à stabiliser le produit. Si il a été déstabilisé un jour.
Alors là, effectivement, c'est intéressant ta question parce que on a les mêmes réflexes maintenant avec le vin nature, qui n'est pas le vin biodynamique, qu'on avait avec la biodynamie. Il y a 20 ans, la biodynamie, on dit « ouais, les vins sont pas terribles ». C'était peut-être vrai pour certains, parce que les biodynamistes, c'était surtout des producteurs de raisins. C'était pas vraiment des vinificateurs. Moi, en fait, j'ai fait le chemin inverse. Je suis venu à la biodynamie pour faire des vins meilleurs. Donc, je suis venu depuis le vin. Beaucoup de biodynamistes, mais c'est des pionniers extraordinaires pour lesquels j'ai un énorme respect. Ils sont partis de la vigne et puis le vin, ils disaient, bon, il va se débrouiller un peu tout seul comme ça. Donc, il y avait effectivement des vins pas très fins. Maintenant, tu retrouves le même problème avec les vins nature, c'est-à-dire les vins qui sont forcément, pour moi, qui devraient être en bio ou en biodynamie, et mais qui en plus, où tu mets plus de soufre et pas d'intrants. Nous, on en fait déjà deux ou trois, mais on essaye de garder des vins civilisés. Que ce soit pas des vins qui partent justement dans toutes les directions. Parce que quand tu mets plus de soufre, alors là, t'as vraiment plus rien. Hein. Et tu peux avoir des développements bactériens, ça peut partir en vinaigre, il peut y avoir la tourne. Il y a des risques de vieilles maladies.
La tourne.
Ouais, c'est une maladie qui fait que le vin, il sent comme le chewing-gum un peu. Ça sent vraiment pas bon.
Ça va plaire aux Américains, ça.
Ouais, peut-être ça, t'aimerais bien. Hein. Peut-être ça tire, je
sais pas. Non, pas moi, non.
Mais c'est vraiment des vins. Ça, c'est un vin, c'est irrécupérable. Mais moi, j'ai jamais eu ça. Hein. Mais pour dire, les gens, ils croient que c'est facile. Mais non, le soufre, c'est un élément qu'on a de la peine à remplacer. Et maintenant, il y a beaucoup de gens dont nous, on essaye de faire des vins qui ont plus de soufre. Mais c'est vrai.
Les sulfites.
Ouais, les sulfites, exactement. Que tu retrouves dans toutes tes sortes de boîtes de conserve.
Ça fait moins peur que sulfite.
Voilà.
Hein? Sulfite, ça fait peur.
Souffrir, c'est toujours ce qu'on aime. Ça, c'est sûr.
Ça sent le soufre, des fois, ça peut être bon signe.
Ah ouais, ouais. Exactement.
Je rebondis sur une des petites phrases de Duja juste avant. Il parlait de ces vins américains. On sait qu'il y a une problématique en Suisse autour de ces vins qui viennent de l'étranger, qui viennent de très loin, d'Australie, Afrique du Sud, États-Unis, et qui sont moitié prix que les vins suisses, c'est-à-dire les vins indigènes. Et c'est vrai que quand on est consommateur, on va surtout dans des grandes surfaces, hein, dont on taira le nom, bien sûr, où on achète ces vins-là. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens qui sont devant l'étal où il y a tes vins, à côté de vins sud-africains? Tu as envie de leur dire quoi?
Bah écoute, j'ai envie de leur dire que non, je peux rien leur dire. Parce que nous aussi, on exporte. On fait l'inverse,
enfin,
nous.
On n'est pas du tout dans la même catégorie, je veux dire. Un vin suisse qui s'exporte est déjà plus cher en Suisse, alors à l'étranger, il va en coûter encore plus cher qu'un vin indigène.
Moi, à mon avis, c'est un faux problème, parce que tu as des vins à 2 francs, à 12 francs, à 20 francs, puis à 2000 francs. Mmh. Tu as des vins à tous les prix. Et franchement, les vins suisses, c'est pas des vins très chers. C'est vrai pour un consommateur qui va boire énormément, par exemple, qui voudra acheter du vin à 4 balles. C'est sûr que on est cher. Mais on trouve déjà des vins à 7, 8, 9 francs en Suisse. c'est pas très cher pour un vin. Va chercher des vins bourguignons à l'heure actuelle, à moins de 50 balles, un bon vin bourguignon, c'est difficile à trouver.
Mais c'est ce mot « bon » a toute son importance. On trouve des bons vins suisses, des mauvais vins suisses, comme des vins étrangers bons et moins bons.
Exactement.
Mais il y a aussi ces taxes, il y a aussi ce prix de l'heure pour la main-d'œuvre qui n'est pas du tout la même. On n'est pas du tout dans la même catégorie. C'est pas un combat équitable, même intramuros, c'est-à-dire en Suisse. Donc, que serait la solution finalement? On peut pas taxer plus les vins d'importation. On peut pas, apparemment, on peut pas soulager les vins suisses, en tout cas les vignerons, parce qu'on peut pas diminuer le prix de l'heure de travail. Donc, ça veut dire quoi? Que c'est une histoire de responsabilité nationale pour le consommateur, surtout d'apprendre, pas tellement le culpabiliser au niveau du prix, mais surtout lui dire, mais goûter un vin suisse, c'est pas pour nettoyer les vides comme ça a pu l'être à une certaine époque, c'est aussi des vins qui ont un intérêt et qui font partie du terroir.
Ça c'est vrai que ce que tu dis, je pense qu'on a hérité de cette situation où certaines régions pensaient que le vin suisse était juste bon pour nettoyer les vitres. Et effectivement, ça a bien changé. Donc, je pense que c'est surtout ça qu'il faut valoriser. Bien sûr qu'on peut pas fermer les frontières. Bien sûr que quand tu vas en Argentine, ils payent leurs employés 300 dollars par mois. Bien sûr, on sait tout ça. Mais on n'est pas les seuls à avoir ce problème. Toutes les marchandises qui sont... Les seules choses qui sont protégées, c'est les ouvriers. Parce qu'il y a des syndicats qui les protègent. Et c'est très bien. Mais pour les marchandises, ben, c'est pas le cas. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. C'est une situation qu'on sait. Nous, on a un peu les oubliés de la prospérité suisse à l'heure actuelle. Mais on a aussi d'autres choses qu'il ne faut pas oublier. On a Skarnoëtsé qui est magnifique, on reçoit du monde. On est tout près de deux grandes villes qui sont Lausanne, Genève, Zurich est à 2 heures. Nous, on a beaucoup de clients qui viennent depuis Zurich. Parce que c'est des gens qui ont envie d'avoir une émotion, ils ont envie d'avoir une aventure, ils ont envie de comprendre ce qu'ils font, ils ont envie de nous voir parce que ça donne de la crédibilité au produit. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et la plupart des grands vignobles, il faut pas l'oublier non plus, ils sont près de grandes villes. Tu prends le Priorat, c'est Barcelone, où ils sont près de grands axes de communication. Bordeaux, mais mon vieux, s'ils n'avaient pas leur bateau pour aller jusqu'en Angleterre, il y a longtemps qu'ils n'auraient plus de vin, par exemple. Ou bien tu prends la Bourgogne avec les fleuves qui sont tout près. Souvent, c'est les grands vignobles, ils sont on parle de grands terroirs, parce que les vignerons ont eu les moyens d'investir dans leur sol pour les rendre meilleurs. Et nous, on a cette capacité-là d'avoir la chance d'avoir des gens qui goûtent nos vins et puis qui ont une émotion avec ces vins-là, qui les trouvent bons, parce que tu peux trouver plein de vins qui sont bons partout dans le monde. Moi, je ne dénigre aucun autre vin. C'est vrai, ils ont de la chance de pouvoir les produire moins cher, mais c'est comme ça. Mais on a d'autres avantages. Bon, on a des clients tout près.
Dans chaque génération, il y a eu des problèmes. Enfin, là, je viens de finir de lire un livre sur une vigneronne de Féchy qui avait raconté son histoire. Et au sortir de la guerre, il n'y avait pas de main-d'œuvre. Alors, ils travaillaient de 5h du matin à 20h du soir. Ils n'arrivaient jamais au bout. Enfin, je pense que chaque période, il y a des choses difficiles. Alors, c'est des cycles un peu. Enfin,
heureusement, l'immigration est venue soulager
exactement
tout ça.
Ben, par exemple. Et d'ailleurs, actuellement, il y a aussi des ouvriers qui deviennent patrons parce qu'il y a aussi des domaines qui sont, moi, tout le monde a pour la chance d'avoir une fille comme nous qui reprend, avec laquelle je m'entends bien. Et puis, où je sens que le message, il est aussi maintenu et tout, puis qu'elle va être dans la même philosophie. Ça, c'est super.
Comment ça se passe, cette passation de pouvoir? Est-ce que Laura, tu amènes ta petite touche quand même? Le père, tu lui dis, j'imagine que c'est quelqu'un de fantastique pour toi, mais est-ce que tu apportes quand même ta petite touche Laura de plus en plus ou pas?
Je pense que j'ai quand même été formée par la maison La Colombe, donc je suis imprégnée, on fait beaucoup de sorties ensemble, on visite beaucoup ensemble, on est vraiment, comme il disait, sur le fond, on est vraiment dans la même philosophie. Et puis là, j'ai repris officiellement déjà les vignes, donc au niveau des vignes, mon papa ne vient pratiquement plus, sauf si je réclame qu'il vienne, donc c'était un peu une manière de me faire de la place aussi pour que je fasse mes erreurs, que je fasse mes essais. Et puis après, au niveau vinification, je suis présente, mais cette fois, c'est lui qui a le dernier mot.
Et je lui achète les raisins. Pas cher, hein.
Ouais. Et puis au niveau des frangines, ça se passe bien tout ça, toute cette jolie famille qui se met ensemble pour un même projet de vie?
Alors, j'ai aussi pas mal de chance que mes parents, ça fait quand même pas mal d'années qu'ils réfléchissent à comment on va faire la succession pour que mes sœurs, elles restent... finalement, l'humain est plus important que l'argent. Alors, ils font tout pour que ça se passe bien et puis qu'elles ne soient pas jalouses dans 20 ans ou dans... que tout le monde soit content aujourd'hui.
Que si elles s'engueulent, que ce ne soit pas ma faute.
Ouais.
Tu vois? Que ce soit pour d'autres sujets. Parce que l'argent, voilà, c'est pour... D'ailleurs... Nous, on n'est pas tellement... ce sera ça le problème, c'est qu'il faut trouver des solutions pour que les sœurs, elles aient aussi quelque chose, que ça soit logique. On sait bien que le domaine, il ne peut pas être partagé, puis c'est très bien, puis qu'il sera repris à une valeur qui n'a pas de référence avec la valeur vénale, la vraie valeur. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve, on est en train de chercher avec Violaine, des, on a trouvé, plus ou moins, Violaine, mon épouse, que ça soit équitable. Et puis, ça se passe très bien. En plus, on les tient au courant, elles savent comment ça va se passer. C'est super pour ça, c'est important. Mais et non, mais c'est vrai hein, quand même. Ce que je disais au début, c'est que Laura, c'est à l'école hôtelière, les collègues, ils lui ont dit « Ah, mais t'es fille de vigneron, viens déguster avec nous. » C'est là qu'elle a pris goût à déguster, qu'elle est devenue présidente de l'organisation du concours de vin que vous faisiez toujours à l'école hôtelière. Ensuite, elle a recommencé un apprentissage qui n'était pas si simple que ça, parce qu'en ayant, tu vois, en sortant de l'école hôtelière avec une tête grosse comme ça, bon, tu... attention, mais... Alors, elle est repartie au grison dans un domaine Bovel pour faire une année d'apprentissage.
Où ils font du très bon vin, en Suisse allemande.
Du très bon vin. Puis après, donc, on fait une année chez Denis Mercier en Valais. Et puis après, partie en Afrique du Sud, elle a été en Bourgogne. Je veux dire, elle s'est formée de façon différente de moi. Elle amène aussi beaucoup d'éléments nouveaux dans cette entreprise. Et puis c'est ce qui m'intéresse, que c'est super aussi. Moi, je continue à apprendre grâce à Laura hein, aussi. Ça, c'est,
on sent qu'il y a beaucoup d'émotions dans tes propos.
Ouais, voilà. C'est...
Voilà, ben c'est sûr.
C'était la séquence émotion.
C'était la séquence émotion.
Et qui aurait-il un mouchoir, s'il vous plaît?
Non, il n'y a pas besoin, mais je veux dire, et puis même, après tout, c'est
parce
ça
que... Parce que j'ai le coronavirus, Philippe.
C'est... Ah bon? Attends, je vais m'éloigner, alors. En attendant, ouais. On remercie la famille Paco de nous avoir reçus. Merci à vous deux, merci à toute la famille, parce qu'il y a tout le clan Paco là-bas derrière. Hein. On a eu l'occasion d'ailleurs...
Parce que c'est vrai que le vin, c'est vraiment l'humain partout. On ne le dit pas assez, hein. Même quand il neige, là, ou quand il pleut, ou on est à la vigne.
Ouais. Même quand on n'a pas soif.
Ouais, on a toujours soif, mais on peut pas toujours boire.
Ouais, puis bon, on oublie par exemple Jason à la cave. Ça, il a fait l'apprentissage chez nous.
20 ans.
Et 20 ans, il est toujours là. Tu t'imagines? Puis maintenant, il va encore supporter la génération suivante.
Eh bien, on va devoir revenir dans quelques années pour continuer l'émission. En attendant, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous, la famille Paco. Merci à vous tous qui nous écoutez. Demain, on va parler gastronomie. Et demain, je vais vous raconter la légende de Féchy.
Merci beaucoup, Philippe. Une petite dernière pour la route. Pourquoi le domaine de la Colombe?
Ou alors ça, c'est... Y a... Alors, c'est long, hein.
Ah non, on va alors demain. À demain.
Attends, alors, je résume.
Non, on va à demain. À demain, Philippe.
Allez, à demain. C'est quoi la colombe?
La première, il est 10h.